Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Proverbe 12, verset 1er, où il est dit: celui qui aime être corrigé aime la connaissance. Celui qui a de la haine pour la réprimande est bête. Ça, c'est la traduction dans la Bible Thompson. Dans les autres versions, Louis II, il est dit « est stupide ». Stupide ou bête, c'est la même chose. Vous êtes d'accord avec moi? Autrement dit, quelqu'un qui est stupide, c'est quelqu'un qui est bête. Être bête en français, ce n'est pas une insulte. C'est simplement quelqu'un qui est stupide. C'est tout. Celui qui aime être corrigé aime la connaissance. Celui qui a de la haine pour la réprimande est bête. Aïe, aïe, aïe. La parole de Dieu parle fort, je vous assure. Et j'aimerais lire encore un autre passage pour vous, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, à partir du verset 12 à 17. Nous lisons: Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit: il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Les aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des merveilles qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles qui attiraient des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle? Et il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Bon, j'ai lu tous ces passages pour bien les situer. Mais il n'y a qu'une seule pensée qui me... Frères et sœurs, personne n'a autant aimé que Jésus. Personne. Et c'est lui qui nous démontre ce qu'est le véritable amour. Depuis des semaines et des semaines, même moi, nous sommes sur ce thème de l'amour. De l'amour qui s'exprime de tant de façons. Je ne sais pas jusqu'où nous dirons, mais tant que le Seigneur me donnera quelque chose dans ce cas, je continuerai. Frères et sœurs, je vous assure que s'il y avait l'amour dans notre monde, notre monde ne serait pas comme il l'est. S'il y avait notre amour dans notre monde, l'ouvrier serait payé son juste salaire. S'il y avait de l'amour dans notre monde, il n'y aurait pas la rage et la haine, parce qu'il n'y a pas de salaire depuis tant de mois, et parce que certains ont bien plus qu'il leur faut et refusent de partager. L'amour. L'amour est la solution de notre société aujourd'hui. Frères et sœurs, mais il n'y a pas d'amour sans Dieu. Et si nous voulons une société équilibrée, si nous voulons une société où la paix règne, il faut un minimum d'amour. Jusque-à-quand profiteras-tu? Et ne seras-tu jamais rassasié alors que tu as plus qu'il ne t'en faut et que tu as plus même qu'il ne t'en faut pour le restant de tes jours? Jusque-à-quand prendras-tu de ce que le pauvre a, le petit peu qu'il a, pour augmenter sa richesse? Cette parole est valable pour le monde entier. Tant de conflits dans notre monde à cause de l'égoïsme. L'amour, c'est pourtant la solution à nos problèmes. Même si l'économie va mal, l'économie peut mieux aller si seulement nous vivons l'amour et nous savons ce que c'est de Dieu. Et l'amour du prochain. Certaines fois, je crie du haut de cette plateforme, de cette estrade, devant ces micros, et je me dis, et je le dis, à quoi servent tous ces discours? Je ne vois pas ce qui se passe dans les cœurs, et je ne sais quel est l'impact que cela a sur les âmes.
mais je crierai même dans le désert, car cette parole n'est pas la parole de l'homme, elle est la parole de Dieu. Et cette parole est semée. Elle est semée pour porter du fruit, et en son temps, elle portera du fruit. En son temps, car je crois qu'elle est vraie. Même si je ne vois aucun fruit, même si je dois partir un jour sans rien connaître et sans rien voir, ce n'est pas moi qui donne le fruit, mais c'est cette parole, si seulement elle est prêchée comme Dieu veut qu'elle soit prêchée. Ce n'est pas moi qui peux changer le cœur d'un individu, d'un homme ou d'une femme, mais c'est Dieu par son Saint-Esprit, et il est dans la parole. L'amour et la discipline, voilà ce dont j'aimerais vous parler ce matin. Tant d'hommes et de femmes, l'amour et la discipline. Oh, combien nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence et dans notre entendement. Car nous nous conduisons avec stupidité. Et c'est comme dit les proverbes ici. Qui aime être corrigé, aime la connaissance. Celui qui a de la haine pour la réprimande est bête. Est stupide. Parole forte, parole percutante, parole qui frappe. Il faut nous mettre devant la réalité, frères et sœurs. L'Esprit de Dieu est un esprit d'amour. Nous avons vu que la marche par l'Esprit, c'est la marche dans l'amour. Nous voulons être des pentecôtistes, entre guillemets, mais combien d'entre nous marchons par l'Esprit? Car si nous marchons par l'Esprit, nous marchons par l'amour. Et cet amour est démontré par nos œuvres, par nos actions. Et nous acceptons la discipline quand elle vient. Celui qui marche par l'esprit n'accomplit pas les désirs de la chair, qui sont des désirs égoïstes. C'est ce que nous avons dit tous ces derniers dimanches. Oh, je souhaite que vous appreniez ces choses. Je souhaite que vous les appliquiez dans votre cœur. À quoi cela sert donc de prêcher et de dire toutes ces choses-là, si cela ne rentre par une oreille pour sortir par l'autre, et continuer la même façon de vivre dans laquelle nous étions et nous sommes. Si la parole est prêchée, si vous venez ici, et si vous l'écoutez, c'est pour qu'il y ait un changement à notre propre niveau personnel. Nous avons trop l'habitude de tout vouloir toujours pointer le doigt sur celui-ci, sur celui-là, sur tel homme, sur telle forme, sur telle autre autorité, alors que nous-mêmes, à notre propre niveau, quelquefois nous agissons pire. Si nous voulons un changement de notre société, c'est moi qui dois changer en premier. Et qu'est-ce que je peux faire en moi-même? Arrêtons de jeter les regards sur les autres et accuser les autres. Celui qui marche par l'esprit n'accomplit pas les désirs de la chair, qui sont des désirs égoïstes. Je ne vois que moi-même et je ne vois pas l'autre. Dieu nous aime d'un amour immense et à cause de ce grand amour dont il nous a aimés, il est obligé, vous m'entendez, de nous discipliner. Parce que Dieu nous aime, il est obligé de nous discipliner. Là, je parle aux chrétiens, à ceux qui se disent chrétiens, à ceux qui se disent enfants de Dieu. Combien d'enfants de Dieu se révoltent devant la discipline exigée par le Seigneur, la discipline exigée même dans l'Église, la discipline exigée dans les affaires de l'Église ou les affaires hors de l'Église. Lorsque je suis un homme d'affaires chrétien, je dois exercer la discipline vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres, c'est-à-dire une discipline qui manifeste la justice, qui manifeste l'équité, qui manifeste la transparence. Si je ne le fais pas, je suis indigne du titre que je porte de chrétien et d'enfant de Dieu. Cette discipline, je l'exige à moi-même. Et je l'exige aux autres. Pourquoi? Eh bien, parce que l'amour exige la discipline. Oh, théorie que beaucoup rejettent. Amour, 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 donc j'accepte tout. Non! Dieu n'accepte pas tout. Jésus n'a pas tout accepté. Quand il était accusé lui-même, il ne s'est pas défendu. Mais quand il s'agissait de défendre les vérités fondamentales du royaume des cieux, Jésus a dénoncé. Jésus a discipliné. Jésus a fait voir où était la vérité et la lumière. Taisez-vous, ces chrétiens qui prétendent aimer et qui ferment la bouche quand ils voient le mal, et qui y participe parce qu'il y a un bénéfice personnel à en tirer. Non, je n'y crois pas. Oui, Dieu nous aime. D'un amour immense, et à cause de ce grand amour dont il nous a aimés, il est obligé de nous discipliner. Car nous sommes rebelles de nature. Car nous sommes rebelles de nature. Car l'amour, selon Dieu, peut être sévère. Voilà ce que nous devons apprendre. L'amour, selon Dieu, peut être sévère. La sévérité, dans la vérité, pour la justice, n'est pas forcément un manque d'amour. Je sais que des fois, nous sommes taxés de manque d'amour parce que nous exigeons une certaine discipline. Du reste, on me l'a bien dit, vous prêchez sur l'amour, mais quoi? C'est justement parce que je prêche sur l'amour que j'exige de moi-même de la discipline et que je la demande aux autres. Que je la demande à mes collaborateurs, quels qu'ils soient, à n'importe quel niveau. C'est justement pour cela. Car l'amour, selon Dieu, peut être sévère. L'amour, selon Dieu, peut sanctionner. L'amour, selon Dieu, peut même punir. Car s'il n'y avait pas de sanction, s'il n'y avait pas de discipline, s'il n'y avait pas de punition, jamais nous n'apprendrions. Jamais. Et il n'y aurait pas de crainte. Il n'y aurait pas de respect. Il y aurait le laisser aller. C'est pas vrai? On vient au travail quand on veut. J'ai mal dormi cette nuit, alors je viens 30 minutes en retard. Mais si elle fait attention, dites-moi, l'exemple doit venir de la maison de Dieu. Si nous voulons une société meilleure, la maison de Dieu temple. L'exemple de la transparence, l'exemple de la vérité, l'exemple dans la discipline, l'exemple du comportement, l'exemple dans les paroles. Oh Jésus, aide-nous à comprendre cela. À quoi sert l'Église au milieu de notre société si l'Église n'est pas un exemple? L'Église doit être un exemple. Et pour cela, certaines fois, il faut sanctionner. Dieu veut nous éduquer. Voilà. Jamais nous n'apprendrions. Il n'y aurait pas de crainte ni de respect s'il n'y avait pas la sanction, s'il n'y aurait pas la correction. Dans l'amour, mais correction quand même. Dieu veut nous éduquer. Il est un Père qui nous a adoptés. Souvenez-vous de cela. Il nous a adoptés. Qui a adopté des enfants qui ont subi une mauvaise influence. Souvenez-vous d'où vous venez. Souvenez-vous de la famille d'où vous sortez. Quand vous étiez un enfant, on vous laissait tout faire. Jamais une correction. Jamais une exigence de discipline. Jamais. On vous a laissé pousser comme l'herbe. Quand vous étiez enfant, on vous donnait une nourriture, n'importe laquelle. Non, je veux pas. Alors, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi un bonbon. Alors, on donne un bonbon. Mais le bonbon ne fait pas du bien à l'enfant. Ce qui lui fait du bien, c'est cette bonne nourriture que maman a préparée. Mais l'enfant dit, non, je veux pas. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'enfant? Une bonne claque. Et si on donne la claque à l'enfant, est-ce que cela veut dire que... Alors, papa et maman n'aiment pas claquer l'enfant. Non! Et pourtant, s'il aime l'enfant, il va le claquer parce que l'enfant doit apprendre. Quand je pense que, même ici à notre dispensaire, parler d'une personne qui était éduquée n'importe comment, elle veut manger que de la viande. Maintenant, elle est adulte, elle a un enfant. Mais elle ne veut manger que de la viande jusqu'à aujourd'hui. Mais dis donc, c'est que le mari, aujourd'hui, pour payer la viande, c'est difficile, hein. Alors elle est maigre comme tout le monde, mais il me faut de la viande. Qu'est-ce qu'elle a manqué de fesser, cet enfant-là? Je vous assure, moi, quand j'étais petit, ça m'arrivait de ne pas aimer les choses. Oui, oui, parce que le goût doit être éduqué, vous savez. Et papa me disait, voilà, j'en mets quand même dans ton assiette. Pas beaucoup, un peu, mais tu vas finir ça. Et je vous assure que je devais le finir. Et petit à petit, mon goût s'est adapté et je l'ai aimé. Je ne pouvais pas voir les cas, je ne pouvais pas les voir. Quant à la courge, ça me faisait envie de vomir. Mais aujourd'hui, je mange les carottes et je mange les courges. Chaque fois que ma femme le prépare, je mange et je les aime. Vous voyez la discipline? Vous, maman et vous, papa,
Vous savez que vous tenez le futur de votre enfant dans les mains. Et quand vous acceptez tout, vous ne l'aimez pas. C'est pour cela que notre Père Céleste n'accepte pas tous nos caprices. Et c'est la raison pour laquelle il veut nous discipliner. La Bible dit que l'Église doit être une armée. Et une armée indisciplinée, c'est quoi? C'est la pagaille. C'est la mutinerie. C'est le désordre. Voilà une armée indisciplinée. Mais Dieu veut que nous soyons une armée disciplinée sous les ordres de notre chef, Jésus-Christ, le roi des rois. Il est un père et il nous a adoptés. Mais nous avons subi une influence très mauvaise, une déformation de là où nous venons. Et il y a tant de travail à faire en nous. Il y a du travail à faire encore en moi qui vous prêche. Et il y a encore du travail à faire dans chacun de vous. Un grand travail, Seigneur, ne te lâche pas. Continue à travailler en moi d'abord, oh Dieu, à ce que je parvienne à l'image de Jésus-Christ. Seigneur, travaille dans ceux que tu as sauvés au milieu de nous. Travaille, Seigneur, et brise, si c'est nécessaire. Nous avons été adoptés, je l'ai dit. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 5, il est dit, il nous a prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption. Voilà! Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Nous sommes entrés dans la famille de Dieu par l'adoption. Voilà ce que cela veut dire. Nous n'étions pas ses enfants. Nous étions des enfants du diable et nous faisions les œuvres du diable et le diable nous a très mal éduqués. Nous sommes devenus des bandits, des sauvages, des gâtés, des égoïstes. Voilà ce que nous sommes. Mais nous sommes rentrés dans la famille de Dieu par l'adoption et la nouvelle naissance. Il y a deux actions bien distinctes. L'adoption et la nouvelle naissance. L'adoption, c'est quoi? L'adoption, c'est l'action légale. Vous me suivez? C'est l'action légale. Et la nouvelle naissance, c'est l'action spirituelle. Donc, il y a une action légale et une action spirituelle. Vous savez que des fois, des couples en Europe, lorsqu'ils sont... Ils n'ont pas d'enfants, ils sont stériles et tout ça. Ils doivent aller à travers toute une procédure légale pour adopter un enfant. Cet enfant, désormais, portera leur nom et sera considéré comme leur enfant. Mais avant, il faut toute une procédure légale pour adopter l'enfant. Il en a même de même pour Dieu. Lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, il nous a adoptés. Et il y a une procédure légale et ensuite une procédure spirituelle qui consiste à changer l'homme intérieur, notre esprit. Est changé, transformé. Nous sommes nés de nouveau. C'est-à-dire, avant, on n'existait pas pour Dieu. Nous étions morts. Mais maintenant, nous sommes nés quant à Dieu. Nous commençons à vivre une vie nouvelle. Nous sommes d'abord des petits-enfants, spirituellement parlant, et ensuite nous grandissons. Nous grandissons devant Dieu, et nous devenons des hommes faits, des hommes forts. Une action spirituelle. Et cet homme fort, cet homme nouveau, il est là-dedans, enfermé dans une enveloppe de chair. Une enveloppe de chair qui va disparaître. Qui va disparaître. Et c'est là où il y a le combat entre l'homme nouveau et le vieil homme. Le vieil homme doit mourir. Ce caractère doit mourir. Cet enfant gâté doit disparaître. Oui, Dieu fait cela car il a tant aimé. L'éducation de cet homme qui vient à Dieu, de ce nouveau-né spirituel, doit être refaite. Voilà la raison pour laquelle dans l'Église, il faut tout le temps corriger. Corriger encore. Et un pasteur qui ne corrige pas n'est pas un pasteur. Un pasteur qui ne dit pas la vérité et qui ne dit pas à ses auditeurs comment doit être la marche, c'est indigne. Je ne suis pas là pour vous prêcher des beaux discours qui flattent vos oreilles, mais je suis là pour vous dire voilà le chemin, suivez-le. Cet enfant adopté est loin d'être parfait. Il y a un grand travail à faire dans cet enfant quand je vois le travail que Dieu a dû faire en moi. Un grand travail, et ce travail n'est pas terminé encore. Pourquoi? Parce que je suis dans un corps de chair. Et là, il y a la lutte constante. Il est entré, cet enfant adopté. Il est entré dans sa nouvelle famille, légalement parlant et aussi spirituellement parlant. Il a été accepté, vous m'entendez? Accepté tel qu'il est. Dieu l'accepte. Seigneur, sauve-moi, change-moi. Mais j'étais voleur, j'étais adultère, j'étais impur, j'étais colérique. J'étais blasphémateur, j'étais même un ivrogne, un débauché, Mais dès l'instant où je viens à Jésus, il m'accepte tel que je suis. Vous me rendez? Mais ce n'est pas pour rester tel que je suis. Ah, voilà. Tel que je suis, je viens à toi. Tel que je... Oui, d'accord, viens, viens. Et il t'adopte. Mais maintenant, la correction, le changement. Nous ne devons pas rester tel que nous sommes maintenant. Nous sommes sous l'autorité du Père qui nous a adoptés. Vous connaissez bien ce cantique que nous chantons bien souvent, tel que j'en rien à moi, tel que je suis, bien vacillant, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour, je veux être à toi dès ce jour. Oui, ça c'est la prière de celui qui vient au Seigneur avec tous ses défauts, ses tares, ses blasphèmes, son impureté, sa souillure, ses mensonges, tel que je suis, je viens à toi. Et tu me pardonnes sans retour, oui, d'accord, mais tel que tu... Si tu restes tel que tu es, tu n'es pas bon pour le royaume des cieux. Il n'y a qu'un chemin pour toi, c'est la destruction éternelle. Ce travail d'éducation n'est pas facile. Car cet enfant adopté est rebelle, oui, il est rebelle. Il a grandi dans un autre milieu. Il a grandi avec des habitudes. Et il est devenu rebelle. Moi, je veux. Ah, il a été attiré, il a besoin d'une bonne claque. Il a besoin d'aller dans un coin. Il a besoin de recevoir une bonne fessée. Il est rebelle. Il a de mauvaises habitudes. Il faut le reprendre. Il faut le corriger. Et être ferme avec lui. Tout en l'aimant. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu aime, mais Dieu corrige. Là, nous voyons que l'amour de Dieu, selon Dieu, peut être sévère. L'amour, selon Dieu, peut être sévère. L'enfant doit comprendre, à conséquence, ce qu'un homme sème, il le récoltera. C'est la Bible qui dit cela. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair, la corruption. Pour la chair, l'égoïsme, l'égocentrisme. Pour l'esprit, moissonnera de l'esprit. La vie éternelle, semée pour l'esprit, c'est semée pour Dieu, pour les vraies valeurs. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, il est dit, « Fuyez la corruption qui existe dans le monde. » Comment ? Par la convoitise. La convoitise a détruit notre monde et la race humaine. La convoitise détruit notre pays du vie. Convoiter, c'est quoi, convoiter ? C'est désirer ardemment quelque chose qu'on n'est pas autorisé à avoir. Pourquoi est-ce qu'on vole ? Pourquoi est-ce qu'on détourne ? Par convoitise. Pourquoi est-ce qu'on prend la femme d'un autre ? Par convoitise. Désirer, la convoitise, c'est désirer avec avidité, jamais satisfait. La convoitise, c'est un désir insatiable. J'ai, mais je veux encore. Je possède, mais je possède encore. J'ai trois femmes, mais j'en veux encore une quatrième. J'ai beaucoup d'argent, mais j'en veux encore. Voilà ce que c'est que la convoitise. Jamais satisfait. Dans Romains chapitre 6, verset 12, il est dit, que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Et encore ce passage dans Jacques, chapitre 1, où il est dit, chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, parvenant à son terme, engendre la mort. Ça, c'est le cycle infernal. Convoitise, péché, mort. Ça, c'est la marche à suivre de celui qui vit dans la convoitise. Le désir peut dégénérer en convoitise parce qu'il y a une différence entre désir et convoitise. Quand il n'est pas contrôlé, le désir devient convoitise. Il y a des désirs et des besoins placés en nous. Un homme sans désir n'est pas un homme, c'est pas vrai? Bien sûr, je désire monter cette affaire. Je vois que je peux faire ceci et cela et que ce sera profitable. Je dis, marier cette femme, elle est belle, elle est gentille, elle ne veut pas rester célibataire toute ma vie, donc je désire la marier. Le désir contrôlé n'est pas mauvais. Et dans toutes nos actions, nous faisons des actions parce que nous désirons le faire. Je désire faire ta volonté, ô Dieu. Je désire la faire entièrement. Je désire, Seigneur, te glorifier. Ces désirs-là
Dieu les a placés en nous. Il y a des désirs ou des besoins légitimes que Dieu a placés dans nos corps. Je désire manger parce que j'ai faim. Je désire boire parce que j'ai soif. Donc ce désir répond à un besoin, et un besoin réel, un besoin que Dieu a voulu. Donc je mange pour satisfaire ce désir, afin d'avoir la force dans mon corps. Mais si je deviens un glouton, et que je vis pour mon ventre, là, je tombe dans la convoitise. Dieu a bien voulu que nous nous marions avec notre femme. Il l'a voulu, c'est lui qui l'a institué, c'est le mariage. Mais ceci non contrôlé, ce désir non contrôlé devient convoitise. Lorsqu'après avoir profité d'une femme, j'en veux encore une autre, et j'en veux encore une autre, alors c'est la convoitise qui engendre le péché, et le péché mène à la mort. Il veut que chacun de nous sache ce potentiel qui s'appelle désir. Il veut que tout cela soit contrôlé par le Saint-Esprit. Un enfant dira, je veux ceci, je veux cela. Un enfant ne sait pas gérer ses désirs. Il veut encore un bonbon, il veut encore une crème glace. Il veut encore un bonbon. Il veut encore une crème glace. Mais papa et maman sont là pour dire, non, ça suffit. Tu restes, c'est pas bon pour toi. Mange aussi tes légumes après avoir fini ton assiette. Voilà les parents qui pensent à la santé de leur enfant. L'enfant ne sait pas contrôler ses désirs. Il veut ce qui est sucré. Mais ce qui est sucré va lui ronger les dents. Si vous donnez du sucre, si vous donnez à un enfant des bonbons avant d'aller dormir le soir, vous verrez comme ses dents vont être pourries. Même avant qu'elle ait les dents définitives ne sortent. Donc, il faut que papa et maman l'aident. Quoi? Comment? Par la discipline! Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Chacun de nos sens sont une porte ouverte au monde qui nous entoure. Les yeux, c'est une porte ouverte au monde. Les oreilles, une porte ouverte. Le toucher, une porte ouverte. Tout nous, c'est une porte ouverte au monde extérieur. Mais ce monde extérieur est corrompu. Quand je fais, il faut la discipline. Qu'est-ce que tu regardes? Ce que tu regardes va créer en toi une convoitise. Qu'est-ce que tu entends? Ce que tu entends va créer une convoitise. Qu'est-ce que tu lis? Attention! C'est par là que pénètre la convoitise, et que la convoitise engendre le péché, et que le péché engendre la destruction. Frères, sœurs, apprenons à gérer nos désirs naturels bouillis de Dieu, et à les contrôler, à les maîtriser. L'homme naturel ne le fait pas. Ce que j'ai envie de faire, je le fais. On vous dit aujourd'hui, on ne peut pas brimer l'enfant. Ça, c'est l'éducation moderne. Laissez l'enfant faire ce qu'il veut. Il ne faut pas lui donner un complexe. Et vous allez faire un rebelle, un voyou, un gâté. Il a tout dans la vie, mais comme il n'a pas été discipliné, maintenant il devient très dangereux pour la société. Très dangereux. Parce qu'il ne sait pas discipliner. Le désir bien géré est positif. Le désir mal géré est négatif. Il devient convoitif et engin de mort. Destructeur. Voilà ce qu'il est. C'est pour cela que l'amour de Dieu peut être sévère. Car Dieu ne veut pas que nous fassions ce que nous voudrions. Comme il est dit dans les Galates, et ça nous l'avons dit déjà dimanche dernier, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et ils sont opposés entre eux à que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ce n'est pas ce que je veux qui doit être fait. Ce qui doit être fait, c'est ce que l'esprit veut. Et l'esprit, c'est un esprit d'amour. Et donc, ce qu'il veut ne sera jamais à mon détriment. Vous m'entendez? Nos désirs doivent être gérés par l'esprit. Ce qui caractérise notre nature adamique, c'est-à-dire notre homme naturel, c'est le laisser aller. C'est la facilité. Nous aimons la facilité. Nous les aimons le laisser aller. La cupidité. Ça, c'est une marque de notre nature adamique. L'indulgence envers soi-même. Le compromis avec ce qui n'est pas bon. La convoitise sous toutes ses formes. Le mensonge, l'orgueil. L'individualisme. Sachez que si vous êtes un chrétien et que vous avez cet esprit d'individualisme, d'indépendant, eh bien, mon ami, vous êtes indiscipliné. Parce que tu n'as pas tout, tu as besoin de ton frère. Tu ne possèdes pas tout, tu as besoin du contrôle de l'autre. Tu as besoin du contrôle des autres. Frères et sœurs, aucun d'entre nous, nous ne pouvons nous suffire à nous-mêmes. Nous avons besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. je vous contrôle, vous me contrôlez. Enfant, adopté du roi des rois, ne crois-tu pas qu'il y a un grand travail à faire dans ton cœur, afin de parvenir à son image, car là est l'idéal du chrétien, du vrai chrétien, c'est d'aller aider à l'image de Jésus-Christ. Il nous aime, mais il y a un travail d'éducation, un travail de discipline à être fait en nous. Il nous aime, il nous a adoptés, mais maintenant, suis ses règles. Oui, l'amour peut être sévère. L'amour de Dieu, ou celui des hommes, est combien différent. Nous en avons fait un grand développement il y a 15 jours. L'amour humain peut changer, peut se changer en haine. L'amour humain est foncièrement égoïste. Ou alors il est mou, sans caractère, quand on doit être ferme. Voilà ce que c'est l'amour humain. Regardons l'exemple que nous donne Jésus-Christ lui-même. Jésus qui est tout amour, il n'y a pas de plus grand amour que le sien, qui a été démontré largement. Il a donné sa vie pour nous qui étions des rebelles, même pas encore adoptés. Mais afin de nous adopter, il est mort d'abord pour nous, pour payer le prix. Il a payé le prix de l'adoption. Il était aussi un homme de foi, un homme de puissance, Jésus. Il était Dieu lui-même. Il fut tenté à toutes choses, nous dit la parole de Dieu. À part le péché, il n'a jamais péché. Mais ce Jésus d'amour, ce Jésus de compassion, lui qui a fermé la bouche devant ses accusateurs, ce Jésus qui n'a rien dit quand on l'a percé, ce Jésus-là, un jour, a pris un fouet. Il s'est fait un fouet avec des cordes. C'est la Bible qui dit cela. Il s'est fait un fouet avec des cordes. Et il est entré dans le temple. Et il a commencé à frapper à gauche. Voilà ce qu'il a fait, Jésus. Il a renversé les tables des changeurs. À cette époque-là, les gens venaient pour adorer au temple. Et ils venaient de différentes villes. Et souvent, les villes, les grandes villes, avec leur propre monnaie à elles. Alors, comme ces gens venaient adorer à Jérusalem, ils voulaient offrir des sacrifices. Et pour offrir des sacrifices, ils achetaient sur place le sacrifice. Et ils changeaient leur argent. Ensuite, ils achetaient des pigeons, ou ils achetaient des bœufs, ou des moutons, ou des taureaux, pour offrir un sacrifice. Mais voilà! Il y en a qui se sont frottés les mains. Nous pouvons faire des affaires. Nous pouvons faire des affaires. Et alors, celui qui change l'argent, au lieu de changer au juste change, il change juste un petit peu pour mettre dans sa poche. Vous voyez? Et ensuite, il s'occupait toute une immense place dans la cour parce que c'était un moyen de gagner et de gagner beaucoup, vous voyez? De gagner beaucoup, c'était pour le lucre, c'était pour le bénéfice. Il n'était plus l'association sans but lucratif. Oui, nous sommes enregistrés comme une association sans but lucratif. Et notre argent n'est pas pour nous enrichir, notre argent c'est pour enrichir les autres. Et ce que vous donnez ici, c'est pour enrichir les autres, c'est-à-dire leur apporter Jésus-Christ, pour leur apporter le message de la délivrance. Et ce n'est pas pour nous enrichir, c'est juste pour nous donner notre pain de chaque jour. Mais voilà que ce principe a été violé. Et dans le temple à Jérusalem, ce n'était plus une association sans but lucratif. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un fouet avec des cordes. Et puis, il est allé, frappant à gauche et à droite, il renverse les tables des changeurs. Tout l'argent tombe par terre, mélangé. Ensuite, il renverse les sièges. Les cages de pigeons tombent par terre et s'ouvrent, les pigeons s'échappent. Les bœufs, les moutons sont là à peiner. Et Jésus, avec une sainte colère, parcourt la place en criant, vous faites de la maison de mon père une taverne de voleurs, une maison de trafic. Je suis sûr qu'à ce moment-là, il y en a beaucoup qui ont dit, mais dis donc, où est-il l'amour que tu prêches? Tu prêches l'amour, mais où est-il? Est-ce que c'est l'amour cela? A-t-il agi dans l'amour, Jésus, quand il a fait cela? Oui, il a agi dans l'amour. Il a agi dans l'amour et dans l'indignation. Oh, cette indignation qui nous saisit. Lorsqu'on voit les abus qui sont commis dans la maison de Dieu, dans notre pays du Zaïre. Oh, l'indignation qui nous saisit. Lorsqu'on voit des prétendus pasteurs, qui ne pensent plus à leur poste et à leur gloire personnelle qu'à la gloire Seigneur. Pardonne! Garde-nous de faire cela, mon Dieu! Il a pris le fouet. Et peut-être que le Seigneur prendra le fouet contre toi un jour. Tu pleureras, mais reconnais que ce châtiment, c'est pour te discipliner, car il t'aime. Oui, aujourd'hui encore, il prend le fouet contre ceux qui ont fait de sa maison une maison de trafic, une caverne de voleurs, un profit personnel, un bénéfice personnel, une gloire personnelle. Il a pris le fouet. Pourquoi? Parce qu'il est le Père. Voilà pourquoi. Et parce qu'il veut corriger. Oui, il y a un aspect sévère à l'amour, car l'amour ne tolère pas ce qui est mal. L'amour ne tolère pas ce qui est mal. Vous m'entendez? Si tu tolères ce qui est mal, tu n'as pas d'amour. Dieu est amour. Et dans Dieu, dans son cœur, il y a un côté de douceur, un côté de bienveillance, un côté de miséricorde, un côté de patience à son amour. Oui, mais il y a aussi un côté de sévérité, et ça nous devons le savoir. Un côté de jugement, un côté de punition, un côté de châtiment. Pourquoi? Pour ramener son enfant à l'obéissance. Son amour est un amour juste. Son amour n'est pas un amour lâche qui laisse tout faire. Un côté qui exige la vérité dans son amour. Dans son amour, il y a un côté qui exige la droiture, qui exige l'intégrité, qui exige la tempérance, qui exige la transparence. Un amour qui exige la pureté. Et si ces choses ne sont pas trouvées, alors il y a un amour sévère. Un amour sévère qui prendra des mesures, il prendra le fouet pour corriger, afin de ramener le rebelle dans la bonne voie, pour qu'il soit sauvé et qu'il ne soit pas perdu. Pourquoi? Toujours par amour. Voilà le but de Dieu. Comme des parents envers leurs enfants. La réprimande, la correction, la sévérité sont aussi une marque et un témoignage de l'amour de papa et de maman. Quand papa et maman disent à leur enfant mineur, tu rentreras à telle heure, l'enfant mineur doit rentrer à telle heure. Quand j'avais mes filles à Kinshasa qui fréquentaient l'école française et que j'étais invité par des camarades, nous disions avec ma femme, voilà, tu rentreras à telle heure. Oui papa, oui maman. Et à l'heure, dite, elles étaient à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y avait la discipline. Les parents que nous sommes, nous disciplinons nos enfants, non par haine, mais par amour. Dans Proverbes, chapitre 13, verset 24, il est dit, celui qui ménage la verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Si ceci est bon pour les hommes, à plus forte raison pour Dieu, dans nos relations avec lui. L'amour ne laisse pas tout faire. L'amour n'accepte pas tout. L'amour ne se laisse pas piétiner et brimer. L'amour résiste au péché. L'amour dénonce le péché. C'est ce que Christ a fait afin que chacun puisse discerner où est la vérité. Il a dit à ses disciples, en parlant des pharisiens, des scribes et des docteurs de la loi, les docteurs en théologie de cette époque-là, il leur a dit, faites et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent, elles ne font pas. Et que dit-il dans Matthieu? Matthieu 23, lisez tout le chapitre, vous allez voir. Vous allez dire, mais il parle sans amour. Que dit-il? Malheur à vous, scribes parisiens. Malheur à vous. Malheur à vous, serpents. Malheur à vous, race de vipère. Malheur à vous, sépulcre blanchi. Vous avez, il n'a pas d'amour, il n'a pas d'amour. Ce prédicateur, là, il est hors de la vérité. Quoi donc? Au contraire. Il veut montrer la différence entre la lumière et les ténèbres. Frères, sœurs, si l'Église est ténèbre, il n'y sera pas. Et pour cela, il faut cesser les ténèbres. Et comment? Par la vérité. Car la vérité vous rendra libre. Jésus, lorsqu'il a parlé ce langage que je viens de dire là, dans Matthieu 23, il n'a pas parlé aux païens de la sorte. Jamais. Lisez la Bible. Lisez tout le Nouveau Testament. Jamais il n'a prononcé de telles paroles vis-à-vis des païens. Jamais. Il était patient. Il leur a parlé. Il les a éduqués. Il les a enseignés. Mais il était très sévère pour les hypocrites. Pour ceux qui ont la parole de Dieu et la révélation
mais qui l'adaptent à leur propre idée et qui sont des rebelles. Ceux-là, ils leur disent malheur. Ceux-là, ils leur disent serpent. Ceux-là, ils leur disent vipère. Ceux-là, ils leur disent... Mais ce langage-là, il emploie celui qui ne connaît pas. Oui, son amour est sévère. Car son amour dénonce le mal pour amener à la repentance, pour que les autres discernent entre le bien et le mal. Quand le prédicateur, quand le pasteur, quand l'autorité de l'Église fait ces choses rebelles que Dieu réprouve, tous ceux qui le suivent vont dire, oh, donc ce n'est pas mal puisqu'il le fait. Or, je vais le faire aussi, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Jésus a dénoncé publiquement les chefs religieux de son temps, afin que ceux qui les suivent puissent voir la différence, puissent discerner la différence. Si vous discernez en moi qui vous prêche des œuvres des ténèbres, reprenez-moi, je vous en supplie, parce que vous me montrerez alors votre amour pour moi. Et je ne veux pas, à cause des œuvres que je fais, et qui sont des œuvres de rébellion et de méchanceté, je ne veux pas être responsable de centaines, peut-être de milliers de personnes qui vont dire, oh, le pasteur Vernon le fait, moi je peux le faire aussi, et ce sont des œuvres qui vous mèneront à la perdition. Attention! Attention à vous qui prêchez! Attention à vous qui êtes devant la foule! Attention à vous qui vous prétendez être des responsables religieux! Les autres vous regardent, et si vous prêchez, ils diront, donc c'est pas péché, puisqu'il le fait. Et il le fait aussi. Et à cause de votre péché, vous entraînerez d'autres dans la perdition. Voilà pourquoi le Seigneur a pris le fouet pour corriger les religieux hypocrites. Garde-nous, garde-moi d'être un hypocrite, Seigneur, je t'en prie. Marcher dans l'amour de Dieu ne veut pas dire que vous laissez tout aller, qu'on peut vous marcher dessus. Mais cela veut dire que vous faites ce qui est juste, voilà. Marcher dans l'amour, cela veut dire que vous montrez l'exemple. Marcher dans l'amour veut dire que vous êtes semblable à votre Père, et que vous êtes soumis à son autorité. Un homme sévère qui demeure sur ses positions, car il sait ce qui est juste. Il aime et il est sévère. Et il ne change pas ses positions quand il sait que ce qu'il fait est juste.